Merci beaucoup, Mathieu et Déborah, qui à 10h moins 5 ont choisi ces chants-là. Bien, bonjour, chers membres du corps de Christ, chers membres de l'Église de Dieu qui est dans l'Est de l'Ontario. Souvent, c'est un petit peu de ce genre-là que débutent les épîtres dans la parole. Mais quelle joie ce matin de revoir vos visages, ou du moins ce qu'on peut en voir. C'est déjà agréable de pouvoir se réunir ensemble, de pouvoir se voir, même si on a des limitations, pouvoir vivre cette communion, ce temps de réjouissance ensemble. Alors ce matin, on va faire un petit peu de mathématiques bibliques. Et j'aime autant vous avertir, peut-être pour les gens qui sont à l'école, les jeunes, peut-être pour Lydia ou pour Alexandre ou Gabriella, de ne pas mettre ces réponses-là dans vos examens, parce que sinon vous allez avoir zéro. Ce n'est pas de la mathématique du monde que je veux faire ce matin, c'est de la mathématique biblique. Et on a vu dans les derniers messages qu'on était appelé à ne pas se conformer au siècle présent. Eh bien, même dans les mathématiques, la Bible ne se conforme pas au siècle présent, mais vous pouvez quand même, pour vos examens, mettre les bonnes réponses du côté de la mathématique de ce monde, si vous voulez réussir à avoir votre diplôme, évidemment. Mais avant, j'ai pensé justement avoir quelques images pour pouvoir rire un petit peu ensemble. Ça, c'est un petit peu mon style, hein, les jeux de mots. Hein. On a ici une banane entière, puis là, on a une banane entière. On est séparé en trois tiers. Hein. C'est plus mon style de jeu de mots. Ah, celle-là, je pourrais la prendre pour moi-même. Hein. Je pourrais dire que je suis marié à un professeur de maths, puis elle compte beaucoup pour moi. Hein. Probablement que c'est une déformation professionnelle, mais je la trouvais pertinente. Celle-là, je la trouvais quand même, hein, peut-être les jeunes vont, surtout au secondaire, hein, je dis, cher mathématiques, tu pourrais peut-être grandir un petit peu, comme ça tu pourrais résoudre des problèmes tout seul. Hein. Donc, maintenant, si on additionne une main droite, une main gauche, un bras droit, un bras gauche, une jambe droite, une jambe gauche, un tronc, un cou, on obtient presque un corps. Hein? Mais le corps n'est pas en vie, n'est pas viable non plus. Pour qu'il soit viable, il faudrait ajouter une tête, ajouter un cœur, des poumons, des intestins, un foie, des reins, tous les membres, pour que le corps soit viable. Puis encore là, il faudrait que Dieu lui donne souffle de vie pour qu'il puisse être en vie. Sinon, il n'est pas en vie. C'est pas, s'il manque quelque chose, il ne peut pas être en vie, ou il doit avoir des éléments qui vont compenser pour ce manque-là. Même un cerveau ou un cœur ne peut pas vivre tout seul. S'il est tout seul, c'est pas long. Hein, quelques secondes, quelques minutes au maximum, puis il est mort. Il a besoin du reste du corps pour fonctionner. Donc, on peut imaginer que le cœur, c'est ce qui est le plus important, mais non, s'il est tout seul, il ne pourra pas survivre. Alors, ce matin, c'est ça, c'est dans ce contexte-là que j'aimerais qu'on tourne encore dans Romains 12, on est rendu. On va lire les cinq premiers versets pour reprendre un petit peu le contexte de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Vous allez voir, on a pris vraiment le temps, je voulais vraiment bien placer les bases. Et là, maintenant, je voudrais qu'on aborde les sujets qu'on retrouve dans Romains 12, mais beaucoup plus large. On va en balayer très large pour qu'on puisse vraiment bien comprendre chaque élément du texte de Paul ici. On va lire les versets 1 à 5 de Romains 12. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Et notre texte de cette semaine, « Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. » On va juste se courber, demander au Seigneur de nous aider à comprendre la richesse de ce passage-là. Eh bien oui, Seigneur, premièrement, on peut te dire merci de nous avoir, dans ta grâce, appelé à nous joindre, Seigneur, à ce corps. Que toi-même, tu nous as joints à ton corps et qu'on peut être participants aujourd'hui de ce corps. Merci, Seigneur, de ce que toi-même, tu es la tête. De ce que toi-même, Seigneur, tu dis que c'est toi qui bâtis ton Église. Merci de ce que c'est ce que tu es en train de faire encore en 2020 avec toutes les circonstances autour de nous. Seigneur, on croit que tu es en train d'accomplir ton plan. Ton plan pour moi, ton plan pour mon frère, ma soeur, pour notre Église, pour chaque Église dans le monde. Et certainement, on veut te demander qu'on puisse ce matin, en ouvrant les Écritures, Seigneur, vraiment être édifié, encouragé. Seigneur, et qu'on puisse sortir d'ici grandi en toi. Donc, utilise ma bouche, Seigneur, dans ta grâce pour communiquer ce message puissant et prépare nos cœurs à recevoir et à bien comprendre ce que tu as à nous dire. Et particulièrement, je veux te demander que peu importe notre âge, qu'on ait 3 ans ou qu'on ait 70 ans, Seigneur, que chacun puisse bien assimiler la richesse d'un texte comme celui-là. C'est en Jésus. Amen. Donc, tout d'abord, le verset 4. Si on remarque, il commence par un petit mot, le car. Le car, c'est un mot qui souvent est important de ne pas l'oublier, parce qu'il est là pour une raison. C'est important parce que Paul est en train de nous expliquer dans les versets qui suivent pourquoi il nous demande de ne pas avoir de nous-mêmes une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes. Donc, c'est l'idée dans laquelle on va devoir lire les versets qui vont suivre. Parce qu'on est appelé à vivre cette humilité, de ne pas être orgueilleux et vivre cette dynamique qui est en train de nous décrire dans les versets qui on regarde aujourd'hui et les prochains, dans cette attitude d'humilité. Maintenant, dans les versets 4 et 5, il est question du corps. On parle ici du corps. Évidemment, tous ont compris que c'est une illustration pour parler de l'Église. Le corps, c'est l'Église. Ça, c'est conformément à deux textes, comme dans Éphésiens 1, 23 et 5, 23, qui dit, hein, il a donné Christ pour chef suprême à l'Église, qui est son corps. Donc, c'est le même auteur. Et comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps? Donc, Paul, dans Éphésiens, le dit plus clairement, mais ici, c'était sous-entendu. Et il prend pour acquis que tout le monde va comprendre. Quand il parle de corps, il parle d'Église. Donc, c'est un synonyme qu'il a utilisé, une façon imagée de parler du sujet de l'Église. Aussi, on peut se mettre d'accord, puis je ne pense pas que personne va avoir d'objection, que l'Église, ce n'est pas un bâtiment, ce n'est pas la bâtisse, même si dans notre jargon ici en Amérique, on est habitué de parler de la petite église en haut de la côte, là, ou la petite église dans Forest Park, mais Paul ne parle pas du bâtiment, il parle des croyants qui composent l'Église. D'ailleurs, comme on le remarque, les épîtres sont habituellement adressées à une église. Ce serait bizarre pour Paul d'adresser une lettre à un bâtiment. Il y a du bois, puis du béton, puis du... Ça serait illogique. Donc, c'est vraiment, lorsque la parole parle d'église, c'est toujours dans le sens de l'ensemble des croyants qui la compose. Mais la question que je voudrais surtout qu'on regarde, mais la première question que j'aimerais qu'on regarde ce matin, c'est est-ce que Paul parle ici, quand il parle du corps de Christ, est-ce que c'est l'Église locale ou l'Église universelle? Parce que souvent, c'est la question qu'on va se poser. Oui, mais Paul ici parle juste de l'Église universelle, là, il parle juste de l'Église locale. Dans le contexte actuel, est-ce qu'on est membre du corps de Christ qui est toute la planète, finalement, tous les chrétiens dans le monde, ou est-ce qu'on est membre du corps de Christ dans l'Église locale? Ça va faire toute une différence dans la façon dont on va appliquer ce qu'on va voir après. Donc, bon, je ne ferai pas de distinction dans ma prédication entre corps, église, épouse. On parle tous de la même chose, c'est des mots qui sont interchangeables. Donc, premièrement, je veux qu'on regarde le terme église dans le sens d'église locale. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans les introductions de ces épîtres, on voit Paul, mais les autres auteurs, souvent aussi, vont adresser la lettre à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, aux églises de la Galatie, à l'Église de Thessalonique, hein, qui est en Dieu le Père, les Thessaloniciens qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur. Donc, on voit que ici, dans ce contexte-là, c'est vraiment une église locale. Il ne parle pas à une des églises, il parle à l'église, hein, de Dieu. Donc c'est, même si c'est une église locale, Paul dit que c'est l'église de Dieu qui est à Corinthe. Hein, ou l'église des Thessaloniciens qui est en Dieu. Puis de la même façon, dans Galates, on voit que c'est aux églises, au pluriel. Donc chacune de ces églises-là, c'est l'Église. Okay? Donc, on voit que la parole de Dieu parle d'Église dans le sens d'une Église locale, un rassemblement de croyants d'une localité. Mais il y a aussi d'autres contextes dans lesquels on voit que c'est l'ensemble des croyants. Dans Actes 9, 31, on voit que l'Église, je crois ici que c'est vraiment dans le sens de tous les croyants, était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Sédifiant, etc. Donc ici, on parle d'un territoire d'à peu près 200 kilomètres. On est dans un contexte où les gens se déplacent à pied. Donc il est évident que ces personnes-là, à 200 kilomètres, ne pouvaient pas chaque dimanche se rencontrer tous ensemble. Il aurait fallu probablement 3 jours pour se rendre chez eux, puis 3 jours pour revenir. Puis une journée pour se reposer peut-être entre ça, et encore là, les personnes moins en forme n'auraient pas pu le faire. Donc c'est impensable qu'il y avait juste une église. Mais il parle de l'Église, donc il fait comme il globalise, il dit ça c'est l'Église. Puis il y a un autre texte, mais quand il parle de l'épouse, évidemment, à la fin des temps, l'épouse s'est préparée, il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, il parle de l'ensemble des croyants. Donc, dans la parole, on retrouve les deux. On retrouve l'idée d'Église locale, l'idée d'Église universelle ou globale, et la parole ne fait pas de distinction. Vous remarquerez qu'il n'y a jamais le terme local ou universel dans les Écritures. Il faut regarder le contexte pour le comprendre, mais la parole ne fait pas de distinction. Parce que les croyants du monde, c'est l'Église, et les croyants de l'Est de l'Ontario, c'est l'Église. Okay? Donc, on est une Église en soi. Notre texte nous dit qu'il faut plusieurs membres bien différents maintenant pour former un seul corps. C'est ici que viennent nos mathématiques bibliques. Et on pourrait dire que, selon ce texte-là, 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, etc., égale 1. C'est ça la mathématique biblique. Mais en même temps, chaque unité, chaque personne qui compose l'Église est bien différente. C'est pour ça que j'ai mis là, on va faire un petit peu d'algèbre, un A plus un B plus un C plus un D, donc des personnes différentes, etc., égale un corps, une église seulement. Ou, on pourrait dire, un Caleb plus une Ginette, plus une Hélène, plus une Suzy, etc., égale l'église de l'Est de l'Ontario. Ça, c'est la mathématique biblique et que je ne veux pas que vous mettiez sur vos questions d'examen à l'école, s'il vous plaît. Si vous avez 1+1+1, n'écrivez pas 1. Faites la mathématique comme votre professeur vous l'a enseigné. Sinon, je vais me faire chicaner par Suzy si je vous dis de faire le contraire. Donc, chaque membre qui compose le corps a une fonction bien différente. En même temps, chaque corps entier, chaque corps, étant donné qu'il est composé de personnes différentes, va être équipé souvent différemment. C'est ce qui va faire que chaque église locale va avoir sa couleur, sa saveur qui lui est particulière. Donc, entre une église et une autre, il y a plein de choses qui sont communes, mais il y a aussi plein de choses qui les différencient. Donc, il y a des choses qui sont vraiment, pour être une église de Jésus-Christ, ça prend A, B, C, D, okay? Mais il y a des choses qui peuvent varier. Souvent, c'est dans la façon de faire, les forces d'une église, les faiblesses de cette église-là. Donc, chaque église va différer une de l'autre, même s'ils sont tous des corps, même s'ils sont tous l'église de Dieu. Certaines églises vont être plus charismatiques, hein, plus ça va être plus vivant. Quelqu'un me parlait, je pense c'est Ginette, hein, elle me disait qu'elle était allée. C'était à quel endroit c'était? Ce matin, l'église que tu me disais? Oui? À Cuba, ok, ouais, c'est ça. Puis elle disait que c'était le fun d'entendre les enfants chanter, mais ils ont une saveur différente là-bas. Hein. Puis souvent, c'est beaucoup plus vivant. Comme en Haïti, la même chose. L'église, ça va danser. Ça va. Ici, en Amérique, on est plus frileux souvent. Pas partout. Certaines églises vont être plus. C'est vrai, c'est mélangeant. On a deux Ginettes collées là. Il faut bien aligner. Ce qui va faire que chaque église va avoir quand même certaines différences, certaines caractéristiques vont leur être propres. Donc, on a vu, bon, c'est ça, oui, c'est ce que je voulais dire. Celui-là, je l'ai manqué. Les membres qui composent l'église, eux aussi vont avoir une saveur qui vont leur être propre. Ils vont être différents les uns des autres. Autant qu'une main peut être différente d'un foie. Hein? Si tu regardes les deux, une main et un foie, sur une table, tu vas dire, ben, ça ne vient pas du même corps, c'est pas pareil du tout. Non, ils viennent du même corps, mais ils sont très différents, bien qu'ils ont certaines choses en commun, hein, dont l'ADN qu'on a maintenant, qu'on connaît, là. Mais ça peut faire qu'une personne peut être plus, plus athlétique, hein? Va avoir un corps plus athlétique, comme le mien. De quoi qu'on parlait les deux dernières semaines, Sylvain? L'humilité, je pense. Hein? Je vais réécouter les messages. Je vais en avoir besoin. Mais d'autres vont être plus artistiques, d'autres plus intellectuels, hein? Puis d'autres vont être un petit peu comme mon illustration tout à l'heure, avoir un tiers de chaque. Hein? Une personne entière, mais en tiers, T-I-E-R-S, hein? Un tiers athlétique, un tiers intellectuel, un tiers artistique. Donc, ça va faire des églises qui vont être différentes l'une de l'autre. Donc, on en vient à se demander, pourquoi est-ce qu'il y a tant de types ou de sortes d'églises différentes, puis souvent dans une même ville? Lorsqu'on était à Grand Bay, je pense qu'il y en a un petit peu moins aujourd'hui parce qu'il y en a qui se sont joints, mais il y avait une vingtaine d'églises chrétiennes évangéliques, qui, je crois, étaient l'église du Seigneur Jésus, mais qui avaient des saveurs ou des façons de faire bien différentes l'une de l'autre. Il y en a qui sont, comme on l'a dit, qui sont plus charismatiques, d'autres qui sont plus traditionnels, d'autres qui sont plus missionnels, qui sont plus dans la moisson, finalement, d'autres qui ont un leadership plus centralisé, d'autres plus décentralisé. Donc, il y a plein de variantes qui vont les différencier. Mais est-ce que toutes ces églises sont l'Église de Dieu? Je crois que oui. Je crois que oui. Probablement la plupart, sinon toutes ces églises à Grand Bay sont l'Église de Dieu. Alors, on se pose la question, est-ce qu'on devrait réunir tous ces croyants-là? Puisqu'on est tous l'Église de Dieu, est-ce qu'on devrait tous se réunir ensemble? Est-ce qu'on devrait travailler à unifier ces églises-là, bien, je ne crois pas. Parce que je crois que c'est sain qu'il y ait ces différences-là entre les églises. Je m'explique. Personnellement, moi, je suis content dans nos rencontres de ne pas avoir quelqu'un qui est par terre à côté de moi en train de faire le bacon. Ça, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, là. Mais moi, je ne serais pas à l'aise. Dans ce contexte-là, je ne serais pas bien. Ou je suis bien, bien à l'aise qu'entre les chants, on ait des silences. Parce que je suis déjà allé, je me rappelle, quand je suis arrivé à Granby, j'ai dit, je vais faire le tour des églises. Puis il y en avait que ce n'était pas identifié, c'était quelle dénomination. Fait que j'étais allé un matin, puis j'étais avec mes parents, je me rappelle. Et entre, on était resté pour deux chants. Mais entre les chants, là, le niveau sonore était plus fort que pendant les chants. Hein, vous avez sûrement déjà vu ce genre d'église-là où « Amen, Alléluia, praise the Lord! » Puis c'est tellement fort entre les chants que quand tu arrives au chant, on dirait que ça tombe tranquille tout d'un coup. Mais moi, je suis pas à l'aise là-dedans. Mais il y en a qui sont plus à l'aise dans ce contexte-là, et c'est bien qu'il y ait des endroits où eux peuvent se réunir. Et sincèrement, qu'il y ait cette distinction-là, ça, je pense que c'est sain. C'est bien que ça existe. Je suis content aussi d'être dans une église où l'Évangile est central, où la repentance et la grâce sont mis au centre de notre message, de nos prédications. Et que ce ne soit pas non plus la loi, la culpabilité qui soit mise à l'avant, mais la grâce de Dieu. En même temps, je crois que ces différents types d'églises ne doivent pas être en guerre l'une contre l'autre. On doit accepter, dans la mesure où ça reste dans le cadre de l'Évangile, que l'église voisine soit différente de nous et ne pas essayer de les détruire, les discréditer, ou même d'aller chercher les gens dans cette église-là. Conformément au texte de 1 Corinthiens 11, versets 18 et 19, regardez ce que ça dit. Il dit, « D'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions, et je le crois en partie. » Et ça, c'est spécial, la façon que Paul le dit, « Car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous. » Il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Donc, c'était déjà prévu que ça arriverait, que même dans des églises évangéliques, il y ait des dissensions, qu'il y ait des divisions pour mettre justement peut-être ces différences-là dans des églises distinctes. Il dit, mais évidemment, il dit malheur à ceux par qui arrivent ces divisions-là, par contre, mais c'était déjà, selon Paul, c'était normal que ça arrive. Donc, en même temps, quand on a une église qui va être plus charismatique, vous conviendrez que les dons qui vont être accordés aux personnes dans cette église-là peuvent être un peu différents de celles qui sont dans une église traditionnelle. Donc, ça va faire encore là une différence. Bien que je pense qu'il y a des limites, personnellement. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, là, la bénédiction de Toronto qui est arrivée en 1994. Puis même, je lisais un article d'un ancien pasteur là-bas qui s'est repenti des choses qui s'étaient passées, mais je crois que cette église-là a glissé, hein, a pris une mauvaise tangente, mais c'est dans des églises, dans des milieux, puis je ne nommerai pas l'église, là, mais dans des situations comme ça, en 1994, il a commencé à avoir des personnes qui tombaient par terre sur le dos en convulsion, là, même qui faisaient la poule, le chien, ou le Saint-Rire, ce genre de choses-là. Personnellement, je pense que ça, c'est glissé vraiment à côté, et même, je voyais qu'un des pasteurs de l'époque s'est même repenti d'avoir laissé ça aller. Mais est-ce qu'on doit être en guerre contre eux? Je pense qu'on doit garder. Oui, on peut prier pour eux que le Seigneur leur montre, puis on voit que le Seigneur a déjà commencé à le faire, gloire à Dieu. Mais laissons ces choses-là dans leur église. En même temps, faut mettre la nuance. On dit, bon, on n'est pas en guerre contre l'autre église, mais là, on ne parle pas d'une église qui a un autre évangile. Si une église prêche un autre évangile que l'évangile que Paul nous a présenté dans le début de l'Épître aux Romains, là, c'est une autre chose. Hein? Parce que là, un faux évangile, c'est des faux docteurs, ça, c'est une autre chose. Donc, on ne parle pas d'un faux évangile, on parle de pratiques différentes de la vérité. On est d'accord là-dessus? Donc, ce n'est donc pas mal si une personne qui viendrait, exemple, de Toronto, de ce milieu-là, arrivait parmi nous, disait, tu cherches une église, puis que lui était bien dans ce contexte-là, et que c'est ce qu'il recherche, c'est ce qu'il veut continuer à pratiquer, ce n'est pas mal de le diriger vers une église qui va plus rejoindre ses valeurs, ses croyances. Sincèrement, ça l'évite souvent bien des discussions et des... puis, comme je vous dis, on ne parle pas nécessairement de doctrine non biblique, mais de pratiques différentes. Mais c'est pas mal de dire que okay, nous, on n'est peut-être pas la meilleure église pour toi. Il y a telle église qui n'est pas loin, que tu pourrais aller, probablement que tu te sentirais mieux. Mais comme on l'a dit, c'est toujours la nuance que ce n'est pas une fausse doctrine ici. L'appartenance, et ça c'est le gros point que je voudrais qu'on regarde ce matin. Parlons de l'appartenance à l'église locale. Qu'est-ce qu'on peut penser des personnes qui diraient « c'est pas important d'appartenir à une église locale puisqu'on fait partie du corps de Christ, de l'ensemble des croyants. Moi, je fais partie de l'église de Jésus-Christ, de l'ensemble des croyants, donc je n'ai pas besoin de me joindre à une église locale. » Mais moi, je dirais à cette personne-là, bien, bonne chance si tu essaies de m'expliquer cette doctrine-là dans les Écritures. Parce qu'on ne voit pas ça dans la parole de Dieu. Et même des textes, comme Actes 2, 47, hein, qui dit, « Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. » Donc, je pense que dans ce contexte-là, c'est probablement l'Église en général, à tout l'ensemble des croyants. Dieu ajoutait à chaque jour ceux qui étaient sauvés, probablement. Mais quand on regarde le contexte de ce texte-là, on voit au verset 41 qui ont été baptisés. C'est difficile de se baptiser tout seul, même si je sais qu'il y en a qui l'ont déjà fait à l'extérieur. Mais effectivement, il faut être d'un corps pour ça. Mais tout le reste, verset 42 à 46, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle. Communion fraternelle tout seul dans ton salon, désolé, mais ça ne va pas fort, hein? La fraction du pain, dans les prières, ils faisaient beaucoup de prodiges et de miracles. Ils étaient dans un même lieu, ils avaient tout en commun. Ils partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Écoutez, c'est un contexte d'église locale. Tu ne peux pas vivre cette dynamique-là qui se vivait si tu n'es pas au sein d'une église locale. C'est beau de faire partie du corps de Christ, dont l'Église de l'Est de l'Ontario fait partie du grand corps de Christ. Mais tout passe par l'Église locale. Le plan de Dieu pour chacun de ses enfants, c'est d'être là, pour vivre cette dynamique-là. Et tous les versets qu'on va voir dans les prochaines semaines, les prochains mois, c'est justement cette dynamique de corps de Christ, et que ça ne peut pas être vécu tout seul dans notre salon. Donc, le plan de Dieu pour chacune des personnes qui se convertissent et qui se joignent à une église dans sa localité. C'est le sens d'église locale. C'est local. C'est pas, on ne fait pas 2 heures de route pour se rendre. Si quelqu'un se convertit, je pense entre autres à l'Éthiopien, hein, qui retournait chez eux et qui n'avait probablement pas d'église, bien peut-être que Dieu t'appelle à en fonder une église pour avoir un corps de Christ dans lequel de réunir, s'il n'y en a pas dans ta localité. Donc, notre texte nous dit que ces membres locaux forment un corps, un seul corps. Mais si une main traîne sur la table, qu'on met une main tout seul sur la table ici, et pas bien, bien vivante. Hein? La preuve, c'est que dans deux jours, quand je vais revenir mardi, probablement je vais me demander, il y a quelque chose qui ne sent pas bon ici. Là. Elle est en train de se décomposer. Elle n'est plus accrochée au corps, elle est morte. Donc, pour rester en vie, la main doit rester accrochée au corps. C'est la même chose pour les membres de l'Église locale. S'ils ne restent pas accrochés à l'Église locale, ils sont en train de mourir. Ainsi, de suivre des prédications, des grands prédicateurs sur Internet, ou même des prédicateurs locaux, ça ne va pas nous aider à rester en vie, à long terme, en tant qu'enfants de Dieu. On y retrouve de très bonnes prédications, mais tout cet amour, cette charité qu'on va voir à partir du verset 9, tout ce service qu'on est appelé à rendre les uns pour les autres, qu'on va voir à partir du verset 6, ça ne peut pas se vivre de façon virtuelle. L'Église de Dieu, ce n'est pas juste d'écouter des messages. Il y a toute une dynamique de corps de Christ qui doit se vivre dans la vraie vie. Dans la vraie vie. En présentiel, ça c'est un mot que je n'avais jamais utilisé avant, là. Comme nous venions, on fait en présentiel, on va être présent. C'est un peu comme si on prenait un tison, hein, il est beau mon feu, hein, je trouve une belle image de feu. Prends un tison, là, enlève-le de dedans, puis mets-le sur la tablette du poêle. Parce que si je le mets sur la table, ça va faire brûler la table. Là. Mais mettez-le sur la tablette du poêle, là. Combien de temps qu'il va rester rouge? C'est pas long, hein? On le met sur la tablette, là, il devient gris tout de suite. Puis rapidement, il va refroidir, il va perdre sa chaleur, il va perdre sa flamme. Parce qu'on l'a retiré de son milieu. C'est la même chose pour les enfants de Dieu. Lorsqu'on n'est pas avec les frères et sœurs, on est en train de s'éteindre. Tranquillement, on s'éteint, on s'étouffe. Hein? Donc, c'est pour ça que c'est important de vivre cette dynamique. Ainsi, tu es un des membres, une des pierres qui forment l'Église baptiste de l'Est de l'Ontario. Qui que tu sois. Dans le schéma qu'on voit ici, je vais juste le remettre en plus gros, tu as une place. Tu as un rôle à jouer. C'est une illustration que j'ai faite de ce qu'était une église. Puis dans les prochaines semaines, je veux qu'on passe à travers de ce schéma-là pour regarder ensemble les diverses fonctions dans l'église. Mais tu as une place. Tu as un rôle à jouer là-dedans. Qui que tu sois. Qui que tu sois, tu as un rôle à jouer dans cet édifice. Il faut d'abord que tu reconnaisses, que tu te rendes compte comment Dieu t'a équipé pour ensuite voir, OK, Dieu m'a équipé comme ça et avec la façon que je suis équipé, mon rôle va être soit au niveau de la louange, hein, un rôle de prière, on va regarder ça ensemble, mais je vais avoir un rôle à jouer selon la façon que Dieu m'a équipé. Si ce n'est pas le cas, si tu n'es pas en train de jouer le rôle que Dieu t'a appelé à jouer, eh bien peut-être que l'Église ressemble plus à ça. Et je trouvais ça, je pense que le Seigneur avait tout un sens de l'humour ce matin, qu'on n'ait pas de président et de musicien, de rien malentendu, là, ça n'a pas été grave, on a eu je ne dirais pas notre sauveur parce que je vais me faire lapider, là. On a eu quelqu'un qui est venu à notre rescousse ce matin, puis on a eu même un duo en rescousse, merci. Mais si tu n'es pas en train de jouer ton rôle, il y a un manque. Il y a peut-être quelqu'un, puis je pense que ce n'était pas, c'était pas ma place de présider ce matin. Je commence à manquer beaucoup plus de voix, mais il y a quelqu'un qui est en train de pallier probablement à ce manque-là, parce que tu n'es pas en train de jouer ton rôle. Souvent, ça va être quelqu'un qui va être moins qualifié, que Dieu a moins bien équipé que toi, ou quelqu'un qui est déjà trop occupé ailleurs et qui va devoir négliger peut-être une autre chose pour pallier à ce manque-là. Et souvent, ça peut ressembler à ça, le résultat qu'on va voir dans nos églises. Parce que chaque membre n'est pas en train de jouer son rôle. On a un gros problème. Et ça va être mon but dans les prochaines semaines de vous aider, premièrement, à voir comment vous avez été équipé et quel est votre rôle. Quel est le rôle que vous avez à jouer dans l'Église baptiste évangélique de l'Est de l'Ontario pour qu'on puisse passer de ça à ça. Que l'Église puisse reprendre, chacun puisse prendre sa place et qu'on soit une Église saine, une Église qui est sécuritaire finalement, qui n'est pas en train de tomber en ruine et qui est fragilisée. J'ai lu une pensée cette semaine et je l'avais trouvée pertinente. Ça dit « Ne va pas à l'Église, mais sois l'Église. » Évidemment, pour être l'Église, dans le contexte de notre illustration d'édifice, bien, tu dois être dans l'Église pour être l'Église. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas besoin d'y aller. Je ne vais pas à l'Église, moi je suis l'Église. Tu y vas à l'Église parce que tu as un rôle à jouer, puis c'est toi. C'est toi cette Église-là, ce n'est pas le bâtiment. Donc, le plan de Dieu pour toi, un de ses enfants, c'est que tu grandisses dans le contexte de l'Église locale. Puis ta localité, bien, c'est l'Est de l'Ontario. Donc, le plan de Dieu pour toi, c'est que tu grandisses dans l'Église de Dieu qui est dans l'Est de l'Ontario. Nous sommes le corps auquel tu appartiens. Puis, tu es le membre auquel nous appartenons, dans les deux sens. On ne peut pas dire, non, toi, tu m'appartiens, puis moi, je t'appartiens. C'est dans les deux sens. Tu appartiens au corps, puis le corps t'appartient. On fait un. Est-ce que ma main appartient à mon corps ou mon corps appartient à ma main? Bien, c'est une question stupide, là. Les deux sont... Un ne va pas sans l'autre, là. Enlève mon cœur, puis il n'y en a plus de corps, là. OK? C'est un peu ce que nous disait la fin du verset 5. Hein? Nous sommes tous membres, puis là, les uns des autres. On est membres les uns des autres. Vire ça de bord, c'est dans les deux sens. Dans tous les sens, c'est vrai. On est membres les uns des autres. Et c'est dans cette optique qu'on a choisi le thème de cette année. Donc, l'Église baptiste évangélique de l'Est de l'Ontario, ma place, mon ministère. Et c'est vraiment l'accent que je veux qu'on mette dans les prochaines semaines et même les prochains mois pour qu'on puisse trouver notre place. Quelle est ma place dans cette Église-là? Quel est mon ministère que Dieu m'appelle à jouer? Donc, en résumé, bon, le terme Église, on a vu que la Bible ne fait pas de distinction. Mais la Bible t'appelle à servir dans ton église locale, qui que tu sois, puisque tu fais partie du corps de Christ, de la grande famille, de l'église globale ou universelle, si on veut. Deuxièmement, les différents types d'églises, on a vu que même s'il y a des églises différentes, on n'est pas en guerre l'une contre l'autre, on n'est pas cherché, on n'est pas appelé non plus à unir ces églises-là nécessairement. Dieu a permis qu'il y ait ces différences-là qui sont saines, dans un sens, et on peut accepter qu'on est différent sans être nécessairement en guerre l'un contre l'autre. Et l'appartenance à l'Église locale, tu fais partie d'un corps local, tu as besoin de ce corps a besoin de toi. Donc, dans les prochaines semaines, on va élaborer plus en profondeur sur le sujet des dons spirituels. Des dons qui doivent être exercés, comme on l'a vu, dans un contexte d'humilité, d'avoir des sentiments modestes. Mais déjà, on a vu ce matin que le tison va s'éteindre s'il n'est pas dans le foyer, si on l'a laissé sur la tablette du poêle. Donc, on reconnaît que c'est crucial qu'on se tienne le plus près possible de l'Église, corps de Christ, et d'y être le plus assidûment possible. Le rôle de ton église locale, c'est de te garder brûlant pour le Seigneur, brûlant dans ta foi. À travers des divers ministères dont tu bénéficies, C'est là que tu te joins au peuple de Dieu, au reste du corps, pour rendre un culte d'adoration à Dieu. Lorsque tu viens le dimanche matin, tu ne viens pas un spectacle. Tu viens adorer ton Dieu. Tu es l'acteur lorsque tu viens ici le dimanche matin. On va le voir un petit peu plus en détail dans la section louange. Mais le but de l'Église est de ranimer ta flamme pour que tu sois préparé à affronter la tablette du poêle que tu vas être obligé de vivre pendant quelques jours jusqu'à la prochaine rencontre hebdomadaire. Donc, le but du dimanche, on va voir, c'est l'édification, évidemment. Et lorsque tu es édifié, c'est ça, tu ratises cette flamme-là parce que tu sais que tu vas avoir 3, 4, 5, 6 jours avant de revoir tes frères et sœurs. Donc, c'est le but, notre but le dimanche, de vraiment ratiser cette flamme-là, de s'édifier, de s'exhorter, de s'encourager. Ton service au sein de cette Église est de la plus haute importance pour tous les autres membres du corps, mais pas juste pour eux. Ton service est de la plus haute importance pour toi aussi. Parce que ce n'est pas juste en recevant qu'on grandit dans la foi, qu'on grandit dans le Seigneur, mais c'est en servant, principalement en servant et en donnant. Donc, en te mettant au service des autres, tu vas grandir. Tu vas t'alimenter dans ta foi. Alors, les enfants, je m'adresse à vous autres. C'est quoi les mathématiques bibliques qu'on a vues? Qu'est-ce que ça fait si j'additionne Lydia, plus Marie-Michel, plus Réal, plus Marie-Ève, plus Joël, et toutes les autres, ça fait quoi? Un seul corps. Et ici, c'est l'Église baptiste évangélique de l'Est de l'Ontario. Mais le corps a besoin de tous ces membres-là. Tous ces membres-là qui jouent leur rôle pour bien fonctionner. Donc, on a vu aujourd'hui qu'est-ce qui nous unit comme corps. On est en Jésus-Christ, on est des enfants de Dieu, et c'est ça qui nous réunit, qui fait qu'on est un seul corps. J'aimerais ça que dans la semaine prochaine particulièrement, mais par la suite des choses, on voit ce qui nous différencie maintenant. Qu'est-ce qui fait, comment qu'on est fait, qu'est-ce qui fait qu'on est différent un de l'autre, mais qu'on peut fonctionner ensemble, quel rôle on va avoir à jouer. Donc, ne manquez pas d'être là, on va regarder les versets 4 à 8 de Romains 12 à partir de la semaine prochaine, et j'espère que ça va vous aider à trouver le rôle que vous avez à jouer ici. Parce que vous en avez un, peu importe qui vous êtes, personne ne peut dire qu'il n'a pas un rôle à jouer dans toute la dynamique de l'Église baptiste évangélique de l'Est de l'Ontario. On va prier. Eh bien, oui, Seigneur, merci pour tes Écritures. Merci de ce texte de Romains 12. Merci que c'est tellement un texte vivant, Seigneur Dieu. On jubile en lisant un texte comme celui-là, du moins personnellement. Seigneur Dieu, je te prie que ça puisse faire vraiment une différence dans ma vie, dans la vie de chacun de mes frères et sœurs. Seigneur, que ça puisse attiser cette flamme pour qu'on puisse vivre cette humilité à laquelle tu nous places, ce désir d'être au service les uns des autres. Seigneur Dieu, merci de cette lumière qu'on peut être en tant que croyant, en tant qu'Église aussi, en tant que corps, ici dans cette localité. Aide-nous à briller pour toi. Aide-nous, Seigneur, à chaque semaine de s'édifier et d'être brûlant pour toi tout au long de la semaine, d'être zélé pour partager ton Évangile à ceux qui nous entourent. Et c'est en Jésus qu'on veut te prier. Amen.